Carnet de voyage sonore.
Carnet de voyage sonore.
Carnet de voyage
sonore.
Bonjour, vous nous entendez bien ?
Restez avec nous
jusqu'à la fin.
On va vous parler d'un village qui s'appelle Burlade.
Et vous faire découvrir notre voyage radiophonique.
Au travers des montagnes, des étoiles et du miel.
Premier jour, lundi 9h30, Montpellier. On était tous prêts à partir. On avait nos valises à roulettes, le pique-nique et nous avons attendu Julia pour partir à Burlade. Quand Julia est arrivée, on a dit au revoir à nos parents et on est parti. Dans le camion, on a mis du rap français et on a fait des rimes. J'y vais dans la baignoire, il fait noir, on mangeait un carambar. Et puis on est arrivé à Burlade. C'était beau, le paysage, les montagnes, la vue, quand tu regardes autour de toi, c'est magnifique. On a pique-niqué et on a visité nos chambres. J'ai choisi le lit du bas parce que chez moi, je suis toujours en haut. C'est bien de changer. On a visité le moulin. C'est grand, il y a la salle de musique, la salle à manger, la salle pour s'amuser, la cuisine, les chambres. J'ai bien tout repéré et je ne me suis pas perdue. L'après-midi, on a parlé du programme de la semaine. Et le soir, on a fait un jeu, le Time's Up. C'était bien de découvrir ce jeu. On a mimé et on s'est bien amusé.
On vous emmène en voyage à Burlade.
On arrive à Burlade, un petit village entouré de collines. Pour y accéder, on descend une route étroite en zigzag. Tiens, mange. On marche sur un pont. Sous le pont, une petite rivière qui passe avec des canards.
En traversant le pont, on retrouve des anciennes maisons. Les maisons sont construites avec des pierres bleues, blanches, grises, rouges,
oranges. C'est un village moyenâgeux.
Ça sent l'air frais.
L'air frais de la campagne.
Devant nous, il y a une grande colline. À notre droite, il y a un parking et la mairie. On va interviewer le maire.
La mairie se situe dans une ancienne église. Aujourd'hui, elle est abîmée et elle n'a plus de toit. C'est une église à ciel ouvert. Dedans, on y trouve des sculptures.
Une qui représente un escargot et l'autre qui représente un papillon.
On est devant la mairie où se trouve un rocher à cupules.
Qu'est-ce que c'est un rocher à cupules ?
Ce sont des petites cuvettes de 1 à 4 cm de diamètre qui ont été façonnées par l'homme. La forme du rocher à cupules est comparable à un gros œuf de plus d'un mètre de diamètre.
On va interviewer le maire. Oh merde, on est le 1er novembre. C'est fermé.
Nous allons nous rendre dans notre auberge qui s'appelle le Moulin des Citelles.
Car il y avait à cet emplacement un ancien moulin à eau.
Le Moulin des Citelles se trouve proche de la nouvelle église qui s'appelle...
l'église Saint-Pierre.
Derrière le moulin se trouve un rempart fortifié qui mène à la porte de la bistour. C'est l'ancienne entrée de la ville.
On arrive devant la porte de la bistour.
L'ancienne entrée du village.
On est sous la porte de la bistour. C'est là où les gardes surveillaient l'entrée du village.
Sous l'arche de la porte se trouve un assommoir.
Un assommoir est un trou creusé dans l'arche de la porte pour assommer les ennemis avec des rochers, de l'eau chaude et du sable chaud.
Après avoir passé la porte de la bistour, à notre gauche se trouve un terrain de foot.
Et à notre droite, nous longeons la rivière.
Ici se termine la visite de Burlade.
On espère que vous avez apprécié cette balade.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce village ?
Eh bien déjà la rivière qui passe là. Les habitants.
Les habitants sont très 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 sympas.
Bah, je trouve ça hyper joli, il y a des collines à côté, il y a des vieilles églises, on est tranquille et puis bah voilà, c'est super mignon.
Dans ce village, le village entièrement, tout ce qu'il y a autour, tout... le fait d'être à la campagne en étant pas loin de la ville, la tranquillité, la nature, la rivière.
C'est calme, c'est un village calme, reposant, il y a tout ce qu'il faut à proximité, on n'est pas loin de la ville.
Ah, dans ce village, l'architecture me plaît beaucoup. Tout ce qu'il y a d'ancien, le pavillon d'Adélaïde, tout ça, ça fait rêver, on se croirait au Moyen-Âge.
Quel est le pavillon d'Adélaïde ?
Alors, le pavillon d'Adélaïde, c'est ce que vous avez juste devant vous, ici. C'est un site très ancien dans lequel on fait une expo textile.
Quelle est la spécialité de Burela ?
C'est un village médiéval.
Bah, on peut faire pas mal de sport grâce à la goutte, la rivière. On peut faire du kayak, du canyoning, mais aussi on peut visiter parce que c'est très médiéval.
L'architecture, l'art et peut-être le textile aussi.
Alors la spécialité, c'est les fraises. Que nous avons un terrain très, très riche en oligo-éléments. Les fraises, quand on les mange, elles pétillent.
À votre avis, pourquoi on est venu ici ?
Pour que les habitants donnent leur avis sur le village, pour qu'ils soient un peu plus connus.
Pour venir voir les poussières.
Mais vous êtes venu vous perdre. Hein ?
Le voyage, c'est changer d'environnement. Quand je pars au Maroc, c'est l'expédition. Déjà, il faut trier des habits car le temps, c'est pas le même. Et on achète tout ce qu'on doit ramener. Pour cuisiner, pour la chambre. Ah oui, parce que moi, j'ai deux maisons. Une à Montpellier et une à Tinerie. C'est un petit village au sud du Maroc. Ce que j'aime là-bas, c'est un peu ce qui me plaît ici à Burla. C'est calme, traversé par une petite rivière. Ça me plaît de partir, ça me change du quartier. Il y a moins de voitures et on est entouré de collines. Et puis on découvre de nouvelles choses, des monuments historiques, une architecture différente, comme à Burlat, une ancienne église et un vieux moulin. Le petit bar où j'habite durant l'année, c'est un quartier entouré de grands bâtiments, avec peu d'espace vert et du bruit. Plus tard, j'aimerais vivre dans un village, pas loin de la ville. Mais ce qui me plaît aussi dans le voyage, c'est le fait d'aller d'un endroit à un autre. Pour me rendre au Maroc, je prends le bateau à 7 et soit il fait une escale à Barcelone, soit il va direct à Tanger. Sur le bateau, des fêtes et des activités sont prévues. J'aime être entourée par la mer, ça me change l'univers. Il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir où l'on va. On rencontre toujours de nouvelles personnes qui nous aident dans le voyage et on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voyager, c'est découvrir de nouvelles choses.
Le deuxième jour, on a fait plusieurs choses, comme le micro-trottoir. Mais ce que j'ai préféré, c'est quand on est parti au planétarium. C'était trop bien. On a observé la Lune, les étoiles jumelles, les galaxies et la planète Uranus. Tout ça avec Christopher Baillet, un médiateur scientifique et fan des étoiles depuis la maternelle. Il nous a raconté et montré beaucoup de choses sur l'astronomie. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'on a pu prendre la Lune en photo. C'était très génial. Ce qui m'a pas plu, c'était le climat. Il faisait très froid. Mais même si on avait froid aux pieds, ça ne nous a pas empêchés de découvrir ces magnifiques choses.
On arrive au planétarium pour un voyage dans les étoiles.
Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez rentrer, il y a des chaises un petit peu autour. Puis ceux qui sont... Voilà, on va aller vers le pôle sud. Voilà. Donc là, on voit très bien, voilà, je vous ai centré le cratère Tycho, ce fameux cratère.
qui s'est formé donc un petit peu avant la disparition des dinosaures. Hein. Rappelons que les dinosaures, c'était il y a 65 millions d'années. Celui-ci, 10 millions d'années auparavant. Donc la Lune, c'est quand même l'astre le plus proche de nous. C'est notre satellite naturel. Elle met environ 27 jours pour faire le tour de la Terre. Du coup, ben, à chaque nouvelle journée, eh ben, on la voit de plus en plus lumineuse ou de moins en moins lumineuse. Et là, quand on l'observe à l'œil nu ou au télescope, la lumière qu'on reçoit de la Lune, elle n'est pas instantanée parce qu'elle est quand même à une certaine distance, la Lune. Elle est à peu près à 384 000 km en moyenne. Mais vu que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km en une seconde, ce qui veut dire que quand on observe la Lune à l'œil nu, on l'observe avec une seconde et quelques centièmes de décalage. On l'observe déjà dans le passé d'une seconde.
C'est quoi un planétarium ?
Alors un planétarium, c'est un lieu où on projette en fait une grande salle, où on projette en fait le ciel étoilé, avec les différentes constellations, les différents noms d'étoiles. C'est une carte du ciel en fait, qui se projette sur une voûte en fait. C'est ça un planétarium. Ça permet d'observer le ciel en temps réel. Je veux savoir comment s'appelle cette étoile. Je clique dessus, ça me dit qu'elle s'appelle Markab. Elle a telle brillance, elle est à telle distance. Vous voyez, il y a plein de chiffres qui défilent. Ça me donne plein d'indications.
À votre avis, sera-t-il un jour possible de voyager dans les étoiles ?
On peut penser que l'homme sera encore là d'ici 200 000 ans déjà, peut-être que oui. Mais pour l'instant, c'est encore difficile à imaginer. Déjà, voyager parmi les étoiles, c'est loin les étoiles. Déjà, voyager dans le système solaire, ça serait déjà pas mal. Peut-être l'homme sur Mars en 2024, ou plus tôt, sinon vers 2030, 2035.
Quelle planète était la plus brillante ? Pourquoi ?
Alors, la planète la plus brillante, c'est Vénus. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle reflète énormément la lumière du Soleil, elle est composée de nuages blancs. Et on la voit très brillante au lever du Soleil.
Quelle est la différence entre les étoiles et les planètes ?
Alors, grande différence, c'est que les étoiles, si elles brillent, c'est qu'elles sont extrêmement chaudes. Alors que les planètes, elles sont chaudes que dans leur noyau. En surface, elles sont froides. Mais ces planètes, elles tournent autour d'une étoile qui, elle, brille, produit de la lumière, de l'énergie et donc de la chaleur. Et après, dans le ciel, pour les reconnaître, eh bien, une étoile va scintiller, alors qu'une planète ne scintillera pas.
Que symbolisent les constellations ?
Y a à peu près 88 constellations dans le ciel. Mais à quoi servent ces constellations ? Eh bien, elles servent à cartographier le ciel. À l'époque, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de GPS. Donc, pour se déplacer, les marins utilisaient la hauteur des étoiles dans le ciel pour se repérer sur le globe terrestre. Et puis, pour savoir dans quelle direction se déplacer, voyager.
Si vous étiez une planète, laquelle seriez-vous ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, étant donné qu'on en a découvert 3500 en 25 ans, alors, j'ai pas toute la liste dans ma tête, mais ça serait plutôt une planète diamant, ça existe.
Comment elle est la planète diamant ?
Ah ben, je ne sais pas exactement. On pense qu'elle est recouverte de cristaux, mais on n'y est pas allé. Donc, on sait juste par rapport à sa masse, en fait, qu'elle est probablement constituée de matériaux très lourds et, et très très durs. C'est pour ça que le diamant, c'est hyper solide.
Qui voyage ajoute à sa vie.
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle.
Que rien n'est prévu, tout est possible.
Qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés.
On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées.
Rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre.
La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé.
Le voyageur est celui qui se donne le temps de la rencontre et de l'échange.
On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va.
Qu'est-ce que le voyage pour vous ?
Une évasion.
Le dépaysement.
Découvrir des nouveaux paysages, des beaux endroits.
Puis ensuite, ça peut être aussi une façon à rentrer en relation avec les locaux, les gens du cru.
Quel est l'endroit le plus beau où vous avez voyagé ?
Déjà, je pense que là où on est, c'est assez joli.
Peut-être au pied des Himalayas, dans un petit village qui s'appelle Jageshwar, d'où on voyait les neiges éternelles.
Au Sési, c'est une station de haute montagne dans les Alpes, où est-ce qu'on voyait l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, et c'était magnifique. Magnifique.
Pouvez-vous nous raconter un souvenir de voyage ?
La réserve Cousteau ? Ouais, en Guadeloupe, quand on a été à la réserve Cousteau, on y a été en canoë et on a passé 3 heures dans l'eau avec les poissons multicolores, l'eau super chaude, turquoise, des tortues, c'était magique.
Oh, mais c'est la Normandie là-haut, la plage de débarquement, le cimetière américain, c'est souvenir de guerre, ça c'est des trucs qui marquent. Hein.
Quels souvenirs amenez-vous de voyage ?
Des coquillages, du sable, mais aussi plein de photos.
Et des nouvelles expériences, des belles images, des rencontres aussi.
Et puis plein de souvenirs qui restent gravés dans nos têtes.
Des porte-clés. Des porte-clés d'Espagne, j'en ai de Norvège, j'en ai de Paris, j'en ai partout. Quand je pars en voyage, je ramène un porte-clés. J'en ai de Corse aussi. Eh bien, j'en ai de Corse-boîte, genre 60, oui. Ça fait un chiffre. Ça fait une bonne collection.
Quel est votre voyage de rêve ?
Là, tu me prends surprise. Là, là c'est un peu la Côte d'Azur. J'y étais, mais j'aimerais bien y revenir. Saint-Tropez, Grasse, Menton. J'aimerais bien y revenir. Là. C'est joli. C'est joli, ouais. Ah, ouais. Mais après, non, je vois pas. Pour le moment, j'ai rien de... Mais si je peux y revenir, je reviendrai. Ah ouais.
Et pourquoi pas visiter l'Inde ou la Thaïlande ou les pays. Ouais, la Thaïlande, c'est bien.
Partir au soleil dans les îles.
Peut-être la Suède. Les pays bien froids. La culture des gens qui ont froid, elle m'a pas déplu. Je crois qu'elle me ressemble.
Allez, je vais dire recommencer.
J'ai toujours rêvé d'aller en Allemagne afin de découvrir de nouvelles personnes, une nouvelle culture. Et depuis tout petit, j'aime le FC Bayern et son équipe de foot. Elle est bien classée et elle joue super bien. Le jour où mes pieds se sont posés en Allemagne, j'étais le plus heureux du monde. J'ai vu mon correspondant allemand et sa famille. Ils m'attendaient en bas d'un bus doré avec de la fierté dans leurs yeux. Ils m'ont accueilli dans leur famille. Dès mon arrivée, ils m'ont serré dans leurs bras pour me dire bonjour. J'avais l'impression d'être des leurs. D'un coup, je me suis senti plus à l'aise. La peur s'était envolée pour laisser place à la rencontre. Les jours qui ont suivi, j'ai découvert de nouvelles personnes, de nouveaux savoirs et un nouveau vocabulaire. C'était l'hiver dernier, la neige tombait du ciel comme des cristaux. Elle se déposait délicatement au sol pour former une étendue blanche et brillante. Mon rêve était devenu un voyage.
Aujourd'hui, mercredi, c'était dur de se réveiller, car on s'est couché tard. Je voulais dormir, rester sous la couette, mais il fallait aller déjeuner. Le déjeuner, c'était bof bof, parce qu'il n'y avait pas ce que j'aime. Après le déjeuner, nous sommes partis enregistrer des sons avec le micro. Nous avons enregistré la rivière, la vache, les canards.
À Burla.
Quand on tend l'oreille,
on entend.
Tout
de l'autre.
Maintenant, je joue à tout. Pique, 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 pique ma fille.
Trop tard.
Arrête de parler.
Ne touche pas.
Et comment j'ai coupé.
Arrête de parler.
Si, je suis parti après.
Et on n'entend pas.
Les pigeons. Les scooters.
Les voitures.
Les tramways. Les bus.
Les camions de poubelle.
On n'entend pas l'alarme de la police.
Les klaxons de mariage.
La sonnerie des écoles.
Les mouettes. Après le repas, nous sommes partis à la campagne pour faire une randonnée. On était dans la forêt. À l'aller, j'ai eu froid. Puis au retour, je me suis senti réchauffé.
Au niveau des chaussures, c'est bon. On a de l'eau, on a le goûter. Donc là, on va partir pour une rando qui va faire à peu près 4 heures. Donc j'espère que vous avez les jambes. Ouais.
Alors ce qu'on va faire, on va traverser direct et on va commencer à monter.
T'es prêt pour la montée ?
Non.
Ah ben là, on va continuer. Là, on a une vue un peu plus d'ensemble du village. Il n'y a pas des maisons un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu. Donc ça représente bien l'image du village d'avant, donc qui restait à l'intérieur des murailles. Autre chose, il faut imaginer qu'il y a 1000 ans, le village y ressemblait plus ou moins à ça. Mais par contre, l'environnement, c'était pas le même du tout. Peut-être ça va vous étonner si je vous dis qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas de forêt du tout ici. Avant, il y avait des troupeaux. Et qui dit troupeau, dit que ça mange qu'il y a par terre. Et donc si vous avez des jeunes pousses d'arbres, eh bien, si vous avez une chèvre, un mouton ou un âne dessus, ou une vache, l'arbre, elle le mange. À partir de là, ben, la forêt, elle ne peut plus pousser. À partir du moment où il n'y a plus de troupeau, ben, la forêt, elle peut repousser. Ici, pourquoi d'un coup, on n'a plus de troupeau du tout ? Ben, simplement parce que depuis tout à l'heure, je vous en parle, il y a du granit. Et ici, les gens, quand ils se sont aperçus que le granit, ça valait des sous, eh ben, d'un coup, ils ont abandonné les troupeaux, ils ont abandonné leur activité justement agricole et ils se sont mis à faire du granit. Donc cette forêt-là, il faut imaginer qu'elle n'a pas plus de 100 ans. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir continuer. A priori, ici, il y a 2 semaines, j'ai croisé un serpent, j'ai croisé une couleuvre à collier. Et ça peut mordre, mais ça n'a pas de venin. Alors ça se mange, hein. C'est les châtaignes, hein, tout ça là. Et là, en plus, il faudrait se presser parce que c'est bientôt fini. Alors, c'est pas pour vous décourager, mais en gros, nous, on va tout au fond. Là, tu vois les rochers qui sont à la fin des deux montagnes, là où les montagnes se rejoignent. Eh bien, on va là-bas. Parce que la cascade, elle est vraiment dans le fond de cette vallée.
On va descendre et remonter.
Ouais. Ça, si jamais vous avez les poumons un peu encrassés, des choses comme ça, bah, ça nettoie toutes les bronches, en fait, justement. Donc ça, il faut le faire sécher. Une fois que vous l'avez séché, vous en mettez 2 cuillères à soupe dans une tisane. Et là, vous avez une infusion de pulmonaire qui nettoie toutes les bronches, justement. Donc intéressant à savoir, pour reconnaître, c'est facile. Vous pouvez toucher, c'est poilu. C'est poilu, ça a des points blancs. À vérifier sur Internet, mais si vous en mettez trop, ça a des effets inverses. Hein. C'est-à-dire que ça va être excitant et tout ça. Alors que si vous n'en mettez pas beaucoup, ça va être justement apaisant, relaxant et... Alors ça, c'est de la pierre, c'est du schiste en fait.
Du schiste. J'ai rigolé.
Et encore que... Non, même pas, je suis en train de te dire une bêtise. Ça, c'est ce qu'ils appellent de la pierre primaire. Donc là, en fait, vous allez pouvoir trouver justement pas mal de roches différentes. Donc vous avez cette pierre primitive. Vous avez tout ce qui est pierre sédimentaire. Comme ça. Ça, c'est des pierres justement... C'est l'inverse du granit. Le granit, il faut savoir que c'est une roche magmatique. C'est-à-dire que c'était de la lave avant. Pour refaire clair, vous me suivez là, tous ?
Ouais.
Même le maître photographe, Sofiane. Alors, il faut imaginer que la montagne sur laquelle on est, elle est plus vieille que les Pyrénées. Avant, elle était saillante comme les Pyrénées. Et à force, elle s'est arrondie. Parce qu'il y a de l'érosion. À partir de ce moment-là, la montagne, elle s'est fait limer. Ce qui fait que dessous, y a eu moins de poids. Comme il y a eu moins de poids sous la montagne, le magma, la lave qui était dessous, eh bien, elle a voulu remonter. À partir du moment où elle a remonté, elle s'est heurtée quand même au reste de la montagne, parce que la montagne n'a pas disparu encore, la preuve, on y est dessus. Eh bien là, le magma, il n'a pas réussi à sortir à la surface, il a refroidi dessous, et il s'est solidifié en granit. Donc le granit, en fait, voilà, c'est la lave qui n'est jamais arrivée à la surface, et maintenant, des millions d'années plus tard, il arrive à la surface enfin, parce que l'érosion a fait son boulot. Et donc il est apparent. Ce granit-là, vous allez voir, même la cascade qu'on va aller voir, elle est toute en granit. Donc au moins, vous aurez bien l'exemple même. Je vous propose, on continue d'avancer un petit peu.
Maman, c'est magnifique de là. Oh maman.
Là, on est au point le plus haut là. Et en gros, on vient de pile entre les deux montagnes là-bas. À la sortie de la vallée.
Ah, c'est tout ça. Ouais, ça
pue. Ouais. Donc là, en fait, vous avez Castres qui est tout au bout. Et juste après, entre le V qu'il y a, eh ben, c'est Burlatz qui est juste de l'autre côté. Donc là, vous avez à peu près marché 5 km et au retour, ben, on a la même chose.
Au milieu du trajet, nous avons rencontré une apicultrice qui s'occupe du miel et des abeilles.
Est-ce que vous voyagez avec vos abeilles ?
Depuis quelques années, ça fait 2-3 ans qu'on les transhume. On ne voyage pas, on appelle ça une transhumance. Alors moi, je travaille avec une abeille noire. L'abeille noire est une abeille locale, c'est-à-dire l'abeille ancienne qu'on avait toujours dans nos régions. Maintenant, ils ont créé des abeilles qui s'appellent les Buckfast, qui sont génétiquement modifiées. Ils ont réussi à faire une abeille un peu plus grosse, avec une langue un peu plus grande, qui récolte beaucoup plus.
Est-ce que les abeilles, ça meurt ?
Eh oui, malheureusement. Alors une abeille, est-ce que vous savez combien de temps vit une abeille ? En été, on va parler d'un été.
Un mois.
Voilà, entre 48 et 52 jours. Pourquoi ? Parce qu'elle travaille énormément. Donc la reine, elle va vivre, par contre, la mienne, vit 5 à 6 ans. La buck ne vit que 2 ans. En été, une reine pond entre 1800 et 2000 œufs par jour.
Pourquoi avoir choisi d'être apicultrice ?
Alors, moi, je n'ai pas choisi foncièrement. Mon mari avait des ruches. Et moi, eh ben, j'étais une cadre qui, en région parisienne, voilà, qui a goûté à la campagne et qui s'est passionnée un peu pour cette vie d'abeille. Parce que c'est une vie, quand on les observe, quand on les regarde, c'est extraordinaire tout ce qu'elles peuvent faire et tout ce qu'elles arrivent à... la communication qu'elles ont. Le langage des abeilles, pour faire un peu court, le langage des abeilles, elles font des 8. Suivant la grandeur du 8, eh ben, elles vont savoir que les fleurs, elles sont beaux. Beaucoup plus loin.
D'accord. Est-ce que les abeilles, ça dort ?
Non. Une abeille, elle vit. On n'a jamais remarqué si une abeille dormait. Elle travaille en permanence. Dans la ruche, il faut qu'elle ventile. Il faut qu'elle maintienne sa ruche à 35, 30, 33, 35, 36 degrés. Que ça soit l'hiver comme l'été. Donc l'été, quand il fait 50 dehors, eh ben, elle ventile pour aérer. Et l'hiver, elle ventile pour chauffer.
Est-ce que vous faites beaucoup piquer ?
Alors, on se protège. Moi, je suis allergique à toute piqûre. Donc je mets 3 couches, c'est-à-dire que je m'habille avec 3 pantalons, et plus ma combinaison, et j'ai mon filet, j'y vois très bien, j'ai mes gants, ça ne m'empêche pas malheureusement de me faire piquer, comme tout le monde, et ben, je me fais piquer, et puis je me soigne. Et il y a des fois, elles sont gentilles, et il y a des fois on a le gant couvert de toute piqûre, après en sachant qu'une abeille qui nous pique meurt. Voilà.
Et vous le revendez où ?
Sur les marchés, les foires, les marchés de Noël. Après, ça m'est arrivé d'en vendre loin parce que j'ai des gens qui sont passés. Ici, c'est très touristique. Donc, c'est parti aux États-Unis, au Brésil, en Angleterre. Voilà. Mon miel voyage plus que moi. C'est dommage. J'aimerais bien l'amener. Brésil, États-Unis, j'aurais bien aimé.
Et le soir ? Nous avons fait une veillée avec un groupe que nous avons rencontré au Moulin des Citelles. Nous avons fait des matchs d'improvisation. C'était drôle et cool, surtout quand j'ai fait l'extraterrestre.
Chers auditeurs, c'est le dernier jour de la Colo Radio. Demain, retour à Montpellier.
Nous sommes contents d'avoir rencontré de nouvelles personnes. Et triste de partir.
À Burlatz, on a découvert de nouveaux paysages, comme la cascade du Saut de la Truite.
Aujourd'hui, nous sommes allés à Castres, la petite Venise du Tarn.
On n'a pas envie de rentrer, mais toutes les bonnes choses ont une fin.
Chers auditeurs, on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Bien les yeux.
Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Et là, on ne va pas le graver sur le portable, on va le graver dans la tête. Et après, on pourra les ressortir aux générations suivantes. Parce que les images seront tellement belles qu'effectivement, on n'aura que du bonheur à raconter.
Merci.
Merci pour votre attention.
De rien, bonne continuation à vous.
Merci. Au revoir.
Merci de n'avoir écouté que notre émission.
Merci à la team des petits Bavarois.
Merci à Julia et Taoba des Sorts.
Merci à Élise et à Colline de Wakadji. Merci à Jean-Luc et à toute l'équipe du Moulin des Citel.
Goodbye.
Auf Wiedersehen.
Adios.
Au revoir. Tchuss.
Au revoir.
Wakadji, ça veut dire on a quelque chose à dire.
Adios.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, saison. Je fumais la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douce angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Traverser les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je?